pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en Zambie, dans le très beau film de Rungano Nyoni, I'm Not a Witch, qui sort aujourd'hui en France dans les meilleures salles. La petite fille a 9 ans, elle s'appelle Shula. Elle est accusée par les habitants de son village d'être une sorcière, puis envoyée dans une sorte de camp pour les filles et les femmes de son espèce. Là, elle est attachée, comme les autres, dans le dos par un long ruban blanc, lui-même relié à une bobine géante. L'histoire prend appui sur une réalité, les enfants sorciers, mais la réalisatrice la transforme en un conte bunuélien, en une comédie surréaliste, dénonçant au passage les superstitions absurdes, la corruption, le machisme, avec la légèreté de ce ruban à la fois aérien, fragile et implacablement accroché au dos des sorcières. Aujourd'hui, dans le troisième épisode de Mortefontaine, nous faisons connaissance, nous aussi, avec un enfant sorcier ou désigné comme tel. Il serait, d'après l'UNICEF, de plus en plus nombreux, plus de 20 000 rien qu'en 2010, à avoir été accusés de sorcellerie à Kinshasa. Ce sont souvent des enfants différents, handicapés, surdoués ou agités. Ils sont tenus pour responsables de toutes sortes de maux, souvent battus, brûlés pour exorciser les mauvais esprits et chassés de chez eux quand ils ne sont pas simplement tués. C'est une série aujourd'hui, Mortefontaine donc exploratoire, de Léa Weinstein, dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture.
Il y a quelques mois, j'ai quitté Paris pour m'installer dans un village de Picardie. Maison à louer, 95 mètres carrés, petit jardin paysager clos de murs, dans village recherché, proche à 1, proche Roissy.
Vous êtes la dame de Mortefontaine.
Village calme, école, lycée privé réputé. Un village du nom étrange de Mortefontaine.
Il n'y a pas grand-chose à Mortefontaine. Hein.
Comment on peut dire, c'est ni la province, ni la banlieue
c'est
ici.
C'est ça, en fait.
Et Mortefontaine, c'est la meilleure ville que je connais ici en France.
Ben, je disais que Mortefontaine est mort.
T'as envie de parler avec quelqu'un, il faut aller le chercher.
J'aurais voté Le Pen.
J'aurais voté Marine Le Pen.
Ça fait des années que je vote pour la
On a envie de réveiller cette ville. On a envie de tenir cette ville vivante.
C'est la banlieue. Non, ça va pas. La banlieue, on est vraiment termo.
La prolieue.
La prolieue, ouais, c'est mieux ça, prolieue.
Épisode 3, David, de Kinshasa à Mortefontaine. La propriétaire de la maison que nous louons depuis plusieurs mois maintenant à Mortefontaine est une comtesse. Sa famille, un grand nom de France, nous a prévenu l'agent immobilier, détenait avant le château et détient toujours ici de nombreuses propriétés familiales et des hectares de terrain, dont une partie est louée au parc Astérix, très proche.
Chez Lucille de Cossé-Brissac.
Sur ces terrains sont installés un nombre difficilement saisissable de locations. On n'était pas vraiment préparé à ça en arrivant, mais on s'y fait. Petit à petit, on fait partie du royaume.
Ici, c'est le jardin des simples.
On habite donc chez là, madame, comme on dit ici.
Le carré des menthes, le carré des thym, etc. Là, vous avez le carré des artémisias.
Le fils de la comtesse, Henri, a toujours adoré venir à Mortefontaine. Alors, quand il a épousé Lucille, ils ont décidé de s'établir ici à temps plein. Ils ont fait construire sur le domaine familial qui domine le hara une maison en bois et ils ont fait un jardin potager en permaculture. Lucille y cultive même une plante qu'elle envoie en Afrique car elle lui a découvert des vertus anti-palus.
Pour l'Afrique, suite au témoignage d'un ami qui a traversé l'Afrique à pied et qui a eu un europalu en Éthiopie et donc les sœurs en fait lui ont donné une tisane de cette plante-là. Et la tisane l'a guéri de ce neuropalu en 48 heures. Il était complètement sous le choc, en fait, hein, qu'une tisane puisse guérir d'une maladie aussi grave. Et donc, on a décidé ensemble de monter une association de loi française, 1901, où on aide, en fait, à la culture de cette plante dans plein de pays d'Afrique. Donc, voilà, je peux vous faire goûter une tisane, si vous voulez. On va
ah bah, pourquoi pas, ça, si jamais j'ai le palu, comme voilà. Ça.
Je ne suis pas au bout de mes surprises. Au moment où on est en train de boire une tisane de cette plante qui s'appelle donc l'artémisia, entre un jeune homme, 25-30 ans. Il va se servir dans la cuisine comme s'il était chez lui. Lucille remarque à peine sa présence. Au bout d'un moment, je demande donc « Mais qui est ce jeune homme ?» À lui, c'est David. Il vient de Kinshasa, On l'héberge dans notre studio.
Et ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Ça fait 4 mois, 5 mois. Ben, là, vous m'avez vu, je me suis réveillé le matin. Bon, j'ai déjà la chance de me réveiller à 10 heures. Et je vais aller replanter les artémisias qui sont dans le jardin pour les mettre là-bas.
D'accord. C'est toi qui prépares tous les petits plants qui après partent en Afrique, c'est ça, hein?
Pas moi nécessairement, mais c'est nous qui préparons ça. Il n'y a rien ici, hein. Pas de café, pas de resto.
C'est un petit village.
Mortefontaine est mort. Hein. Mais bon, écoute, il y a la végétation, il y a la nature, c'est ce qui est le plus important. J'aime bien cet endroit, tu vois, pour la tranquillité. Moi, j'aime la poésie, j'aime la lecture. Je trouve que c'est un endroit paisible. Il suffit d'écouter les chants des oiseaux. C'est poétique. Intérieurement, je suis en train de me reconstruire. C'est ce qui est plus important, parce qu'il y a quelques mois, j'étais dans un sale état. Et là, tu vois, j'ai un second souffle. Et je sens que c'est parti pour un très bon moment de bonheur, de créativité, de joie et un peu de folie aussi.
Les quelques réponses que me donne David ce jour-là sont un peu floues. Je ne comprends pas bien qui il est, ni ce qu'il fait ici. Je me dis aussi qu'on est arrivé au même moment à Mortefontaine, lui et moi, qu'on a l'air d'avoir le même âge, bref, que j'ai peut-être rencontré un allié.
Je vais goûter le.
Mais il est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Je n'ai pas eu le temps de prendre ses coordonnées.
À bientôt.
Je décide donc de rappeler Lucille pour en savoir un peu plus. Qui est-il exactement? Un réfugié politique? Un migrant? Comment a-t-il atterri ici? Elle me dit, regardez sur Internet, il a une histoire extraordinaire.
Coup de cœur, autodidacte de la rue de Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Je suis un homme presque sans histoire. Je suis allé dans la rue quand j'avais 6 ans et demi. J'ai été accusé d'enfant sorcier. Premièrement, ce que j'ai compris, c'est que la vie est un choix. On peut faire d'elle ce qu'on veut quand on a la volonté et on croit en soi et aux autres.
Tous les articles sur lui le présentent comme un héros des rues de Kinshasa. Mais il date de 2012.
Mon rêve, c'est de changer le monde.
Depuis, plus rien. Que s'est-il donc passé entre 2012 et 2017 pour que David se retrouve à Mortefontaine?
Salut, c'est Léa. Je suis en voiture devant le portail.
Attends, tu peux sonner à la...
Oui.
À la droite.
D'accord.
Non, attends, c'est la gauche ou la droite?
Oui, j'ai sonné à droite.
Bon, je m'appelle David Ollier. Je suis ses fils, fils du Congo. Je viens du pays des sapeurs. En réalité, j'ai 27 ans. Mais j'ai 4 ans de plus que mon âge sur mes papiers. C'est arrivé que j'ai passé une grande partie de mon enfance dans la rue et j'ai grandi plus vite que mon âge. Et à un certain moment, en fait, il m'a fallu avoir une pièce d'identité. Donc je pense que j'avais 14 ans et on m'a fait passer pour 18 ans. Donc et ça, c'est resté pour toujours. J'ai été abandonné quand j'avais l'âge de 6 ans, presque 7 ans, accusé d'être un enfant sorcier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance? J'ai grandi au pays de mes grands-parents maternels. Donc à l'âge de 6 ans, c'est ma grande-mère qui débarque du Kasaï oriental, qui arrive à Kinshasa parce que, en tant que Kasaïen, notre sang, donc quand on a un enfant, peu importe avec quelle famille ou n'importe quelle femme, on ne néglige pas ses sangs. Et c'est en ces moments-là que ma grand-mère est venue. Elle a payé tout ce qu'il fallait payer selon la tradition, des petits pagnes, des poules ou des coques, tu vois, ce genre de choses pour me récupérer. Donc ben, c'est comme ça qu'on me récupère à l'âge de 6 ans et j'arrive chez mon père, qui était déjà marié avec une femme et père de 2 filles. Et bon, sa femme, on s'entendait pas bien. Elle était un peu jalouse que je sois l'aîné de la famille. Tu vois, elle a commencé à dire que j'étais un enfant sorcier parce que j'ai bouffé trop, parce que j'étais turbulent, parce que tu vois, j'avais une espèce de comportement qui n'était pas complètement la même façon qu'elle éduquait ses enfants. Donc tout de suite, on a commencé à avoir des malentendus. J'ai commencé à faire des choses. Et donc, à un moment, elle m'a traité de fou. Elle commençait à dire, ah oui, ben, il est pas fou. C'est un comportement forcément d'enfant sorcier, machin. Jusqu'à ce que ça arrive le jour où on m'a accusé d'avoir violé une des petites sœurs. Voilà, quoi. Donc, parce que, soi-disant, elle s'était réveillée, qu'elle avait mal, je sais pas, au bas-ventre. Et voilà, donc ça, c'était l'élément déclencheur qui a fait en sorte que, bon, voilà, je pars de chez mon père pour chez mon oncle, qui était encore bien plus pauvre. Ma grand-mère habitait là, elle faisait les beignets. Et des fois, on me demandait de vendre ces beignets. Et bon, moi, j'avais toujours faim, puisqu'on mangeait une fois par jour. Et donc, de temps en temps, je me servais de beignets. Et ensuite, ben, un jour, parce qu'on m'avait frappé, parce que j'avais volé les beignets, mais j'avais aussi fouillé avec l'argent de la recette du jour, je pouvais pas revenir. Donc, j'ai eu le courage d'aller me cacher dans une forêt. Tu vois, j'ai dormi une nuit dans une forêt à l'âge de 6 ans. Quand la police m'a trouvé, mon oncle est venu. Après, bon, selon la conversation, on m'avait obligé d'accepter que j'étais un enfant sorcier. Et dès là, ils ont dit, ouais, bon, écoute, comme c'est un enfant sorcier, cette sorcellerie vient forcément du côté de sa maman, là où il a grandi, donc on va les ramener. Et quand on m'a ramené dans la famille de ma mère, et vu que j'avais grandi chez mes grands-parents, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup plus choqué et qui me choque encore, c'est que ma mère, elle était remariée. Et elle avait dit à son mari qu'elle n'avait jamais eu d'enfant avant. Donc, mon retour auprès de la famille de mes grands-parents fit un peu un scandale. Donc, ils ont décidé de me sacrifier parce que on m'avait amené dans une église catholique pour l'exorcisme et tout consort. À la fin de cet exorcisme, plus personne de la famille n'est venu me récupérer. Donc c'est comme ça qu'à 6 ans, presque 7 ans, je suis allé dans la rue. Et de la rue, je suis ce que je suis devenu aujourd'hui. Quand j'étais plus gosse, j'avais l'habitude de faire la manche. Et comme j'étais au centre-ville, j'allais demander aux gens plus riches, tu vois. Dans des restos, dans des églises, dans des machins, je demandais partout. Et bon, j'ai profité de l'effet que j'étais enfant et que bon, je faisais un peu de la pitié que les gens me donnaient. Mais quand j'ai commencé à atteindre 10 ans, 12 ans, j'avais passé déjà 6 ans, 7 ans dans la rue, les gens n'avaient plus la même pitié, donc il fallait développer d'autres méthodes pour gagner de l'argent. C'est là qu'on devient un peu plus caïd, un peu plus brut. En fait, on développe tout ce qui peut faire en sorte qu'une journée soit vivable, quoi. Mais tout le temps, en fait, tu fumes de l'herbe, tu fumes vraiment de l'herbe, tu te drogues, tu prends du whisky, tu vois, tu... Mais des fois, face à un certain nombre de douleurs, on réclamait la mort. Tu vois, tu te disais, mais putain, pourquoi je ne meurs pas, tu vois. Tu te rends compte, il y avait des jours où il pleuvait, deux jours successifs, t'étais mouillé. T'avais nulle part, aucun véranda où tu pouvais aller te cacher. Donc t'étais là, ça pleuvait. Et tu te posais la question intérieurement, putain, pourquoi? Pourquoi moi je vivais si bien ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, ça, c'était là, tu t'es dit, mais putain, tu vois, je peux mourir. Et une fois que t'as bu, t'as fumé, des fois, tu traverses le boulevard du 30 juin à 2h, 3h du matin, et t'as des gens qui sortent des bois, des machins, ils roulent à 100 à l'heure, ils bouffent, ils te prennent, ils s'arrêtent pas. Et voilà, les autres qui viennent, ah, un tel est mort. On prend ton corps, on t'amène devant l'hôtel des villes, on te jette là. Ou si t'étais plus connu, les autres peuvent cotiser un peu d'argent, on t'amène à la morgue, il se crée un cercueil comme ça. On fait circuler ta photo en ville, les gens qui te connaissaient, ils vont te reconnaître, ils vont mettre un billet. Et c'est comme ça qu'on achètera un cercueil et que tu partiras, quoi. Et j'ai eu pas mal de gens qui sont partis comme ça. Donc c'était parti pour toujours, j'ai commencé à dealer de la drogue, vu que j'ai parlé très bien le français. Kinshasa, c'est pas un pays très touristique. Hein. Donc moi, j'allais dans des grands hôtels comme Memling, comme... tu vois, j'allais attendre des expatriés qui arrivaient et j'ai proposé de service. Quelqu'un qui avait envie de trouver de l'herbe, celui qui avait envie de trouver de la cocaïne, celui qui avait envie de trouver une bonne pute qui n'allait pas le voler après, tu vois. Des fois, je me faisais accompagnateur, des fois, tu vois, je faisais tout ce qu'il fallait pour que je puisse gagner. Donc, ça commençait à m'échanger. Je commençais à me dire, mais pourquoi pas essayer, pourquoi pas réfléchir, pourquoi pas faire quelque chose qui peut nous mettre en valeur, parce que on s'était rendu compte qu'on n'était pas différent des autres. On était intelligent, on était fort, on avait des capacités qu'on pouvait mettre au service des autres. Donc ça commençait à susciter de nous des idées. Et au fur et à mesure des années, on s'était décidé de créer un mouvement, une association, quelque chose qui pouvait nous valoriser, parce qu'on était beaucoup, on représentait une grande force. Et en 2004, on a créé AEGRC, donc Association pour l'encadrement de jeunes et enfants de la rue du Congo. Mais les vrais problèmes n'ont pas commencé là, les vrais problèmes ont commencé avant.
C'est en 2009 que les problèmes ont vraiment commencé.
Au Congo, Denis Sassou Nguesso donnait largement favori.
Au Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso se présente à sa réélection.
Le candidat de l'opposition a appelé au boycott. Il dénonce une élection truquée.
Les Congolais n'ont plus confiance en leur classe politique. Ils savent très bien que les dés sont pipés. C'est pour ça que nous avons demandé au peuple de boycotter les élections.
6 candidats de l'opposition appellent au boycott du scrutin. À ce moment-là, l'association d'enfants des rues est dirigée par David, qui devient un consultant du gouvernement en place sur toutes les questions de réinsertion. Il les accompagne sur les plateaux télé et leur sert de vitrine. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils vont utiliser les enfants des rues contre leurs opposants. Le pouvoir en place instrumentalise alors l'association de David. Ils envoient des bandes d'enfants des rues dans des manifestations organisées par les opposants, dans le but d'y commettre des crimes et de nuire à leurs organisateurs. David se retrouve alors détenteur d'informations et de preuves sur ses méthodes.
Je commençais à avoir de la pression des associations de droits de l'homme dont j'étais partenaire, parce qu'ils savaient ce qui s'était passé. Ils voulaient avoir des preuves et ils savaient que ces preuves, nous, on l'avait. Mais en même temps, il y a les gouvernements qui savaient que je savais un peu trop et que à chaque fois, ils ont essayé d'étouffer ce genre de choses. On avait fait une plainte avec la société civile, une plainte contre X, mais les informations qui étaient dedans étaient du genre que si elle était mise à la place publique, ça allait faire très mal. Ce qui fait qu'ils avaient des doutes, parce qu'ils ont vu qu'on avait porté plainte et que dans cette plainte, on avait mis des informations vraiment délicates.
Il en sait trop. Le président est réélu, ce qui n'empêche pas David de se faire connaître pour ses activités avec les enfants des rues un peu partout en Afrique. En 2012, il reçoit même un prix, le prix Arubuntu, dans la catégorie coup de cœur personnalité de la société civile.
À la cérémonie de gala de clôture du 6e sommet Africité tenu à Dakar,
il va le chercher à Dakar, au sommet de l'Africité, où se retrouvent ambassadeurs et journalistes du monde entier.
S'il donne la chance à toute la jeunesse, sans marginalisation, sans discrimination, on peut faire de ces mondes un rêve.
Les pouvoirs congolais sont persuadés que David leur a parlé de ce qu'ils savaient sur leur méthode. Il est arrêté dès son retour de Dakar, emprisonné et torturé pendant presque un an.
Ces gens, ces militaires ont abusé de moi plusieurs fois, ils m'ont fait des choses terribles. Dans la cellule, il n'y avait ni fenêtre, je ne savais pas s'il faisait jour ou nuit, je ne dormais pas parce que j'étais nu et ils renversaient de l'eau par terre. Je savais que j'allais mourir. J'étais à bout de force. J'avais même demandé à ces queues que je meure, mais que je meure plus vite, hein, pas en souffrant. J'étais très mal.
La mobilisation des associations des droits de l'homme et ses contacts à l'ambassade américaine lui permettent de s'évader dans un fût de mazout. On est en 2013.
Et est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvé ici, à Mortefontaine ?
Écoute, moi j'ai un ami à moi qui s'appelle le docteur Jean-Louis Lambouré. Et voilà, quand je voulais venir m'installer en France en étant en Suisse, il a dit que ben, écoute, je connaissais des amis qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Et vu tes compétences, en échange, tu pourras donner un coup de main et puis profiter de l'accueil et tout ce qui va avec.
Et donc ses amis, c'était Lucille et
ouais,
Henri.
Lucille et Henri, ouais.
Je comprends mieux maintenant tout ce qui a amené David à se retrouver chez Lucille et Henri à Mortefontaine. Il y a la Belgique, ancienne puissance coloniale du Congo, d'où est originaire l'ami commun qui les a mis en relation. Et il y a aussi l'engagement de Lucille en Afrique, avec l'Artémisia et le Palu.
Elle m'avait dit, écoute, j'habite un petit village, pas trop loin de l'aéroport. Mais bon, je me disais, village, tu vois. Mais quand je suis arrivé, j'ai un peu regardé, je me suis dit, ouais, c'est vraiment un village. Je me rappelle, le jour où je suis venu, des grâces, il y a eu de la neige. Lucille m'a dit, ah, mais ça faisait longtemps qu'il ne neigeait pas ici. Et c'était sympa. Et donc voilà, je me suis installé. Je me rappelle, je suis arrivé un jeudi soir, les vendredis soirs, et ils partaient déjà en vacances. Donc je suis resté 2 semaines ici tout seul. Quand on est ici, on est dans une autre réalité. Dans une grande propriété, complètement découpée du monde. Et bon, au fur et à mesure, tu vois, je me disais, ouais, je vais m'adapter, je vais connaître des gens, je vais forcer un peu. Mais quand j'ai vu la réalité des Mortefontaine, c'est un peu différent, quoi. Tu vois, il n'y a jamais personne dans le ruel ici. Et moi, en étant ici, c'est comme si j'étais dans un château fort, quoi. Donc... Donc si quelqu'un vient ici, soit c'est un invité, soit moi je vais dehors. Mais le reste du temps, je suis là, mais je peux me balader dans les hectares et hectares de forêt, écouter les animaux la nuit. Mais voilà, quoi, c'est vraiment un autre monde, quoi. Tu sais, c'est faire des amis, ça devient compliqué. Et je connais. En fait, je parle avec les jardiniers qui travaillent, qui étaient là aujourd'hui. On se parle, c'est quelqu'un de super sympa, on parle un peu de tout, mais après, je préfère être là, tranquille, que d'aller me faire embêter au village avec des gens qui n'ont rien à foutre d'un Africain. Bon, ça c'est peut-être mon point de vue, mais après...
Je crois que je me demande autant ce que David fait ici et comment il arrive à s'intégrer à ce paysage que lui se demande comment j'ai pu décider de mon plein gré de venir vivre ici.
On le voit d'ici ou pas, le château de Vallières ?
On le voit pas d'ici, mais il est de l'autre côté.
En fait, on est aussi étrangers l'un que l'autre à ce monde cloisonné et un peu suranné.
Donc, parce qu'il a sorti, il est par là, donc c'est là. Mais après, s'il faudra le voir, Lucille t'a amené à la tour Rochefort ?
Non, elle m'a dit qu'elle m'emmenait.
Ah ouais, mais si tu veux, on peut y aller.
Bah ouais.
Ok, peut bien y aller. Ouais, moi j'ai le temps.
Et c'est finalement lui qui devient un peu mon guide des hauteurs de Mortefontaine.
Ah, il y a toujours le carillon.
Au fil de nos échanges, j'essaye de comprendre à quoi peut bien ressembler le quotidien de David au milieu de la famille de Lucille.
Moi, j'habite dans une famille française, des aristocrates. C'est vrai que des gens comme ça, on n'en trouve pas partout. Et puis, il y a la famille de Lucille, qui sont des gens adorables. Et il y a sa mère, Anne... qui est, elle me donne un cours de la culture française. Culture culinaire, culture... Donc, je savais faire la cuisine avant, mais je me suis dit, écoute, je suis là, de temps à autre, le mari de Lucille, quand il fait la cuisine, il me dit, viens, ça on fait ça.
Donc, la séparation des jaunes des blancs. C'est pas très compliqué, mais il faut un petit coup de main. Alors, j'ai un instrument pour les enfants que j'avais acheté si jamais ils n'y arrivaient pas. Je dois encore l'avoir. C'était ça. Donc, le but, c'est quand même que donc, tu casses bien au milieu ton œuf. Tu mets tes deux petits pouces là, comme ça. Et tu essayes d'avoir 2 coquilles à peu près égales de chaque côté, ce qui n'est pas toujours hyper évident. Et puis ensuite, tu balades ton jaune... Tu vois, dans une coquille, demi-coquille d'un côté, dans une demi-coquille de l'autre. Donc, tu vas essayer ?
Ouais.
Donc tu vas aller là.
On va voir ce que ça donne.
Alors si tu as trop peur, tu le mets comme pour les enfants, tu le mets dedans et tu vas avoir le blanc qui va couler, le jaune qui va rester. Donc c'est okay. Comme tu veux.
Toi tu manges tous les jours ici, David ?
Ouais. Ben disons que tout le jour, à 70%, c'est toujours elle qui fait à manger. En plus, elle est hyper exigeante. Ben, les 20% c'est Henri et parfois je donne un coup de main, mais je cuisine jamais quoi.
T'as jamais
moi, non. Vu mon parcours, j'ai pas eu le temps de. Il y a une année exactement, je savais même pas que je serais là en train de faire une tarte au citron.
Allez. Et maintenant on met dans le four une vingtaine de minutes.
Hop, vas-y.
Et là, c'est parti. Pour à peu près 20 à 25 minutes.
David devrait recevoir d'un jour à l'autre le papier qui officialisera son statut de réfugié politique en France. Il n'avait pu l'obtenir jusqu'ici qu'en Suisse et au Brésil. Quand il l'aura, il quittera la propriété de Lucille, cette vie de château fort, comme il l'appelle.
En fait, le château, il est ici, quoi. Attends,
là, on est. Mais le vrai château de Mortefontaine, celui qu'il aperçoit derrière les arbres, a lui été revendu à un habitant dont tout le monde parle ici, mais que personne n'a jamais rencontré.
À quelle distance on est du château ?
Moi, j'aimerais bien essayer de rencontrer l'émir qui vit là.
Ah, ben écoute. Ben, je sais pas, c'est l'été, hein. Peut-être qu'il viendra. J'ai vu un hélicoptère faire un aller-retour ce matin, je sais pas si c'était lui, mais. Écoute, moi, je trouve que c'est des malades. Pourquoi on achèterait un château comme ça si on n'y vit que 2-3 mois, tu vois? Bon, écoute, c'est des gens qui n'ont rien à faire avec l'argent. Donc, tant mieux, il a un château ici, il a un château à Londres. Moi, je trouve que ça va au-delà de la folie, en fait.
Et c'est à ce moment-là que je décide de partir à la recherche de l'émir de Mortefontaine.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre de Kinshasa à Mortefontaine, le troisième épisode de la série Mortefontaine, signé Léa Weinstein et réalisé par Cécile Lafont. Merci à David, bien sûr, et à Lucille. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux. You call